9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Comment parler du sujet calmement, sans caricature ni anathème, et sans considérer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il est inutile d'en parler? Le sujet, l'islam en France, le voile, les musulmans, la laïcité républicaine. Voilà trois semaines qu'on en débat, tout a été dit, y compris beaucoup de bêtises. C'est du moins ce que pensent mes deux invités, c'est leur point commun. Ils vont dialoguer dans un instant. Un préfet, Didier Lesky, il a dirigé le bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Il a été en poste en Seine-Saint-Denis. Il dirige aujourd'hui l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et un artiste, Ismaël Saïdi, fils d'immigré marocain né en Belgique, ancien policier, auteur à succès au théâtre avec Djihad qui moque le périple de Trois Paumées en Syrie. La pièce a fait rire près de 700 000 téléspectateurs. Au générique également, l'un de nos grands scientifiques, Claude Cohen-Tanoudji, prix Nobel de physique 97, qui se désole du déclin de la recherche en France, du manque de postes et de crédits, alors qu'on cherche des solutions contre le réchauffement. Et puis deux amis d'enfance qui jouent leur pièce sur scène, qui jouent à nous faire rire et nous faire réfléchir face à la mort, Bruno Gassiot, l'ex des Guignols, et Philippe Giangreco. Leur pièce s'appelle « Les pattes à l'ail ».
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
C'est un débat qui n'en finit pas, mais qui s'est prolongé encore cette semaine avec l'attaque sanglante de la mosquée de Bayonne par un homme jugé déséquilibré, le vote des sénateurs pour interdire le voile lors des sorties scolaires et ce matin l'appel de 50 personnalités de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, pour dire stop à l'islamophobie, un terme que le chef des Insoumis récusait pourtant jusqu'ici. Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Bonjour Ismaël Saïdi.
Bonjour.
Un débat pour rien. Un débat toxique. En préparant cette émission, vous m'avez dit l'un et l'autre que c'est un débat qui a charrié beaucoup de bêtises, Ismaël Saïdi.
Oui, bien sûr. Mais c'est un débat qui charrie beaucoup de bêtises depuis très très longtemps. Oui. En fait, ça excite tout le monde et puis tout le monde est excité. Puis tout le monde dit n'importe quoi. Puis il y a une surenchère des deux côtés.
Alors, par exemple, de votre point de vue.
Ben, par exemple, de mon point de vue, ce débat sur le voile, ça a commencé avant que je naisse, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps, ça a commencé avec ce qui s'est passé dans cette assemblée-là.
Conseil régional de Bourgogne.
Exactement, où il y a un élu RN qui a apostrophé la présidente, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et lui, il est dans son rôle, finalement. C'est un peu son taf, hein, de faire ça, d'apostropher, de dire à la dame là-bas qui porte le voile, il faut qu'elle sorte, on est en France, etc. À aucun moment, ce monsieur, malgré toutes les bêtises qu'il a dit, n'a agressé cette dame. Il a parlé à la présidente. Il n'a pas agressé la femme qui portait le voile. Cette dame, effectivement, a été humiliée par ses propos, ce que je comprends tout à fait. Et ce qu'on n'a pas vu, par contre, parce qu'il faut aller vers la fin de l'histoire, où là, on lit l'interview de cette dame qui dit, voilà, ils ont détruit ma vie. J'ai une vision très négative de la République. Moi, ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'est que tout le monde à l'intérieur de cette assemblée a pris la défense de cette dame. En fait, personne ne lui a demandé de sortir. Au final, cet élu RN qui faisait son taf, qui a fait son plan com en se filmant et en le postant plus tard, a été plus ou moins débouté parce qu'au final, la France était à l'intérieur de l'Assemblée, oui. La République était là et a défendu cette dame. Donc pour moi, c'est un non-événement, c'est tout.
Cette femme a quand même été désignée publiquement à la vindicte.
Par qui ?
Par l'intervention de l'élu du Rassemblement
c'est ce
national.
Que je dis. Il est dans son schéma, lui. C'est un peu son boulot de faire ça.
Didier Lesky.
Non, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on est dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que depuis 30 ans, et on pourrait même dire depuis que la République a interprété la loi de 1905 de manière très libérale pour construire la Grande Mosquée de Paris, on est dans une aide systématique des pouvoirs publics pour faire en sorte que les fidèles musulmans puissent avoir de nombreux lieux de culte, puissent manger en fonction de leurs prescriptions religieuses, puissent bénéficier d'aumônerie. C'est-à-dire qu'on a une politique systématique de prise en charge de la présence de l'islam en France et de l'augmentation du nombre de fidèles musulmans. Et tout cet effort semble balayé par des discours qui nous disent « mais en fait, rien n'est fait, il y a une stigmatisation permanente des musulmans et on voit donc un durcissement peut-être même de part et d'autre, on pourrait y revenir, mais en particulier ouais. Du côté de ceux dont on espérait qu'ils aient un discours d'ouverture vis-à-vis de ce qu'est aujourd'hui la société française et surtout qu'ils puissent être une digue face à une dérive qu'on voit au sein du monde musulman qui est une dérive de durcissement, d'exclusion de la différence, du rapport aux autres.
Donc pour vous, il est faux et injuste de dire, et on l'entend beaucoup, y compris dans la pétition dont je parlais tout à l'heure, que la religion musulmane est a été déconsidéré, méprisé, délaissé par les pouvoirs publics.
Mais c'est tout à fait le contraire. Regardez encore, il y a trois semaines, le ministre de l'Intérieur va inaugurer un nouveau bâtiment d'une des plus grandes mosquées de France, qui est celle de Lyon, qui a bénéficié de fonds publics. Et ce n'est pas la première fois que des choses comme ça se font. Donc il y a une reconnaissance du fait musulman par les autorités qui est de plus en plus forte et qui n'est pas comparable, par exemple, au fait que quand on regarde la progression des évangéliques dans notre pays, il n'y a pas ce même type de reconnaissance, même d'aide publique. Hein. Depuis les années 2000, s'ouvrent en France entre une et deux salles de prière musulmanes par semaine. La plupart de ces salles de prière s'ouvrent avec l'aide de fonds publics, essentiellement de collectivités locales, toujours dans le cadre de la loi de 1905. Je ne dis pas qu'il y a une distorsion, mais je dis que c'est le culte qui bénéficie, parce que c'est un besoin réel, de plus d'aide publique comparée à d'autres qui auraient besoin aussi, sans doute, d'une aide parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je pense, par exemple, je l'ai dit, aux évangéliques qui, eux, ne bénéficient pas de cette aide.
Ismaël Saïdil, là-dessus oui.
Ben là-dessus, je suis complètement d'accord. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter les postures victimaires. Ça devient fatigant, en fait. Ça devient fatigant, éreintant, et ça excite tout le monde. Je le répète encore. Je reviens à ce qui s'était passé, parce que c'est le début de cette histoire. Je suis d'accord avec vous, cette dame a été pointée du doigt, etc. Mais c'est un fait isolé. C'est pas la norme dans ce pays. On pointe pas tout le monde du doigt. Il n'y a pas d'islamophobie d'État. Moi, j'aime même pas ce mot qui veut rien dire, d'ailleurs. Il n'y a pas de racisme d'État à l'égard des musulmans. Ce que monsieur vient de dire tient la route. Effectivement, les gens arrivent à avoir des salles de prière, arrivent à pratiquer comme ils veulent. Il n'y a pas de guérilla à l'égard des musulmans. Il n'y a rien à l'égard contre eux, en fait.
Alors, je vais vous citer des extraits de la tribune signée par les responsables des Insoumis, d'Europe Écologie Les Verts, de la CGT, de l'UNEF, qui appellent donc à manifester. Depuis des années, la dignité des musulmanes et des musulmans est jetée en pâture. Les actes qui les visent s'intensifient. Il ne s'agit plus de débat d'idées ou de critique des religions, mais d'une forme de racisme explicite qui vise des personnes en raison de leur foi. Nous disons stop aux discours racistes qui se déversent sur nos écrans, stop aux discriminations qui visent des femmes portant le foulard, stop aux délations abusives jusqu'au plus haut niveau de l'État.
Écoutez, ce qui est triste dans tout ça, c'est que c'est en plus factuellement faux. Et heureusement pour notre pays, on a eu une baisse des actes anti-musulmans après les attentats tragiques que nous avons eus. Et ce sont les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Ils ont connu une hausse importante au début 2015 après l'attentat de Charlie Hebdo.
Et puis après,
ils ont baissé depuis.
Et puis après, une baisse. En 2018, une baisse. Et donc, il n'y a pas... je veux dire, il peut y avoir des actes indéniablement, et ce qui s'est passé à Bayonne est proprement inacceptable, bien sûr. Mais la situation globale du pays n'est pas celle d'une tension permanente vis-à-vis des musulmans ou de ceux qu'on considère comme musulmans. Et du reste, si on regarde sur la longue durée, on voit bien qu'il y a eu, heureusement, une pacification des relations entre les musulmans et les autres. Il faut se rappeler, par exemple, que dans les années 70, on a eu, je pense, dans le midi de la France, des épisodes extrêmement violents contre des travailleurs immigrés.
On appelle les ratonnades.
Des ratonnades, etc. On n'en est pas là, et heureusement. Et on peut même dire que des événements aussi tragiques symboliquement que, par exemple, l'assassinat d'un prêtre dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray n'a pas ouvert, et heureusement, des réactions de folie, d'agression contre les mosquées ou contre des personnes qui seraient vues ou stigmatisées comme musulmans. Donc, il y a là un discours victimaire qui est le contraire de ce qui se fait et qui est vécu par l'ensemble de la société française et qui, du coup, devient incompréhensible.
Didier Leski, Ismaël Saïdi, on poursuit ce dialogue après une pause. Et on va parler du port du voile islamique. Est-ce qu'il doit être ignoré, banalisé ou combattu? Et au nom de quoi? À tout de suite.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. On a tendance à penser que pour être mieux protégé, il faut payer plus. C'est une erreur. À partir du 1er novembre 2019, avec la nouvelle complémentaire santé solidaire, l'accès aux soins médicaux pour tous n'a jamais été aussi large, aussi simple et si peu coûteux. C'est un vrai progrès.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur amélie.fr pour faire une simulation ou appelez le 0800 971 391 du lundi au vendredi.
L'assurance maladie. 0800 971 391, service et appel gratuit.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Jusqu'au 30 novembre, si votre BMW a plus de 6 ans, bénéficiez de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien et de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains. Offre valable dans le réseau BMW participant. Conditions sur bmw.fr.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour, chaque semaine, il y a des prix imbattables sur des produits frais.
Imbattables ?
Oui, par exemple, le rhum steak 3 étoiles à Rôtir Origine France est à seulement 9,90 euros le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence.
Ah, alors là, je dis oui, et je dis pas souvent oui.
Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, le rhum steak 3 étoiles à Rôtir Origine France est au prix exceptionnel de 9,90 euros le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Dans les magasins équipés d'un rayon boucherie traditionnel, magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr.
Europe 1. Le samedi jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé cette semaine.
Avec Didier Lesky, préfet qui suit depuis une quinzaine d'années les questions liées à l'islam, auteur d'un guide pratique, La laïcité au quotidien, avec Régis Debray, et d'un essai paru il y a 2 ans, Misère de l'islam de France. Et Ismaël Saïdi, auteur, scénariste, qui essaie d'apprendre aux jeunes musulmans à se méfier des paroles radicales et des lectures littérales du Coran. Vous définissez Ismaël Saïdi, j'ai vu ça dans une interview, comme musulman pratiquant de culture judéo-chrétienne, ça veut dire quoi ?
Et j'ai rajouté qu'il vit dans un environnement laïque aussi, juste histoire. Alors, juste pour reprendre ce que vous avez dit, c'est pas juste aux jeunes musulmans, c'est à tous les jeunes que ça s'adresse. Ça veut dire que moi, je suis né à Bruxelles, que j'y ai grandi. Quand j'étais gosse, mes parents m'ont inscrit à l'école qui était la plus proche de la maison, c'était une école catholique. Où les cours étaient donnés par des prêtres. Et donc, du coup, moi, je suis allé à l'église tous les vendredis et au catéchisme tous les mercredis pendant 10 ans, tout en allant à l'école coranique le samedi. Donc voilà, ça fait partie de ma culture. Et je pense que l'identité est importante aujourd'hui parce que quand on parle d'islam, il y a la religion et il y a l'identité. Et beaucoup de gens le prennent comme une forme d'identité rebelle face à un système. Je voudrais revenir 2 secondes sur cette tribune dont vous avez parlé, que je n'ai pas encore lue, mais rien qu'en écoutant ce que vous avez dit, j'ai les poils de tout mon corps qui se hérissent, parce que en tant que fils d'immigré, j'ai pris l'habitude d'être le nouveau prolétaire de beaucoup d'hommes politiques en manque de combat. Et donc le prolo change chaque fois. Là, c'est le musulman. Il faut un nouveau prolétaire, il faut le défendre, même s'il a rien demandé. Et je trouve ça fantastique quand j'entends ces phrases. On a l'impression que la France est en guerre civile, là. Qu'il y a vraiment une guerre qui est en train de se mettre en place, qu'on est en train de charcuter des musulmans partout. Alors oui, l'acte criminel qui a eu lieu à Bayonne est un acte criminel horrible. Ces pauvres personnes qui n'ont rien fait de mal, qui allaient juste dans une mosquée pour prier, se faire tirer dessus par un criminel, qu'il soit fou furieux ou pas, c'est une horreur sans nom, mais ça reste un acte isolé. Et même s'il y en avait 10 000 sur un pays comme la France, ça sera des actes isolés. Là, on est en train de nous décrire une situation catastrophique, ce n'est pas le cas en France. Et voilà pourquoi moi, alors je reviens sur ce que vous avez dit, je me définis comme belge d'origine marocaine, de confession musulmane et de culture judéo-chrétienne qui vit dans un environnement laïque, parce que je voudrais qu'on comprenne qu'une identité, c'est des milliards de facettes et vous ne pouvez pas me réduire qu'à musulman ou qu'à belge. Je trouve ça même insultant pour ce que je suis.
Ah, j'ai donné toute la liste. Hein. Ancien policier.
Ça, par contre, ça ne devait pas être nécessairement dans l'identité.
Auteur aujourd'hui, comédien, etc. Ouais. Le port du voile, Ismaël Saïdi, vous le percevez comment ?
C'est fou, hein, parce qu'on demande souvent ça aux hommes. Ouais. Ben, voilà.
Oui, on a essayé de faire venir une femme. Enfin, bref.
Vous savez, c'est très complexe, en fait. Ne fût-ce que dans une famille. Voilà. Moi, je suis un Européen, je vous l'ai dit, musulman. Dans ma famille, ma mère le porte, ma sœur ne le porte pas. J'ai une cousine qui le porte, sa sœur ne le porte pas. J'ai une cousine qui l'a porté jusqu'à avoir son doctorat en médecine, puis qui l'a retiré quand elle voulait faire sa spécialisation en gynécologie. Donc, il y a de tout, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je pense qu'il faut prendre ce gros problème et le décomposer en plein de petits problèmes. Le port du voile à l'école, ben non. Non, parce que c'est l'école de la République, excellent endroit où on apprend aux gens une citoyenneté sans religion. Le port du voile dans l'espace public, ben oui, elles sont libres de le mettre, ça les regarde ou pas. Le port du voile dans les universités, c'est un autre débat. Le port du voile dans la fonction publique, ben non, c'est aussi un autre débat. Donc je pense que tout regroupé dans un seul débat, ça ne tient pas la route en fait.
Didier Lesky, vous avez écrit, vous, dans votre livre Misère de l'islam de France, vous considérez-vous que le voile, c'est comme une pancarte idéologique ?
C'est-à-dire que c'est devenu une pancarte idéologique depuis la fin des années 70 et depuis la révolution iranienne. Et c'est vrai que partout où le port du voile s'est développé, on a vu une régression démocratique des sociétés et parfois même très violente. Hein. De l'autre côté de la Méditerranée, Aujourd'hui, on a des zones qui sont les zones des nouveaux génocides et surtout des zones où on a des régressions démocratiques à la fois pour les femmes mais aussi pour les hommes. Et chaque fois, le symbole politique de ces régressions, c'est le voile. On ne peut pas faire fi de cela.
Symbole politique parce que des forces salafistes ou fréristes tentent de l'imposer et de, par ce biais-là, de montrer c'est-à-dire le pouvoir qu'ils ont conquis sur les musulmans.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas voir qu'il y a au sein du monde sunnite, enfin de l'islam en général, une bataille, je dirais, entre ceux qui veulent penser leur foi comme quelque chose qui est de la fraternité et qui n'exclut pas les autres, et ceux qui pensent leur foi et, en excluant les autres. Et le voile est le symbole des seconds. On peut pas dire le contraire.
Alors, si je peux me permettre, je voudrais juste dire que c'est un peu plus complexe que ça. De nouveau, dans le port du voile, il y a des femmes qui le mettent parce qu'elles pensent vraiment que c'est une prescription religieuse, d'autres qui le mettent parce qu'elles veulent se trouver un mari, d'autres qui veulent le mettre parce qu'au quartier, c'est plus facile quand on a un voile de ne pas se faire harceler, d'autres qui le mettent parce qu'elles subissent la pression d'un frère, d'un père. Il y a énormément aussi de cas. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'une femme se voit imposer ce voile et on doit combattre pour qu'on ne lui impose pas, qu'on va du coup se retourner vers celle qui l'a mis de son plein gré. Du coup, c'est de nouveau très complexe. On ne peut pas non plus dire à une femme qui a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de porter un voile en France dans l'espace public, oui, mais pense à ces Iraniennes qui sont obligées de le mettre. Je suis désolé de prendre un exemple qui peut vous choquer, mais c'est comme dire à une femme qui veut avorter, pense à toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça n'a rien à voir. C'est des cas qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On ne peut pas envoyer la souffrance d'une personne sur une autre, en fait. Donc je pense que c'est vraiment un débat qui mérite du temps, de l'apaisement et de la réflexion.
Donc c'est pas le même symbole partout ?
Non, mais indéniablement, il faut faire attention. Il faut pas confondre ce que peut faire une personne privée, une femme, en le mettant, et le problème de la dynamique du voile. Cela dit, là où je serais pas d'accord avec monsieur, c'est je pense que ce qui se passe ici a un impact très fort sur ce qui peut se passer en Algérie, au Maroc, où on a des femmes qui essayent de lutter contre l'imposition du voile. Hein, et dire ici c'est une prescription religieuse comme viennent de le faire un certain nombre de responsables musulmans, je pense que c'est une erreur parce que ça n'aide pas celle qui, de l'autre côté de la Méditerranée...
Alors, c'est pas ce que j'ai dit, parce que moi, je pense qu'ils ont dit une connerie en disant ça à la télé, hein, donc c'est pas du tout ce que j'ai
non,
dit.
Non, mais justement, on va en débattre, vous restez avec nous, on en débat dans un instant, on vous retrouve dans deux minutes, Didier Leschi, Ismaël Saïdi.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Comment faire de la haute cuisine avec des produits simples et rustiques ? Romain Médère, le chef du Plaza Athénée, aux côtés d'Alain Ducasse, va nous répondre. Petit marron, bleu de Hongrie, spaghetti, les courges sont de sortie, il n'y a pas que le potiron dans la vie. Et nous partagerons un chip parmentier pas comme les autres avec Stéphane Guillon. À table les amis.
La table des bons vivants.
A tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Votre voiture est équipée de pneus été, mais vous voudriez plus de sécurité tous les jours de l'année. Vous les changez hiver et été, mais vous rêvez du confort d'un pneu 4 saisons haute performance. Eh bien, choisissez les pneus Hankook Kinergy 4S2. Avec le Kinergy 4S2 de Hankook, vous avez le confort 365 jours par an et la sécurité par tous les temps.
Je ne suis pas garagiste, mais j'ai l'impression que ta voiture a un petit problème de batterie.
Oh, m'en parle pas.
Tu sais que chez Renault en ce moment, ils reprennent ton ancienne batterie 20 euros pour tout achat d'une batterie neuve.
C'est vrai ?
Ouais, tu devrais les appeler.
Tu peux me prêter ton téléphone ? Le mien n'a plus de batterie.
C'est le moment de changer de batterie. En ce moment, Renault reprend votre ancienne batterie 20 euros pour tout achat et pose d'une batterie neuve. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.
Le grand rendez-vous du Made in France, c'est du 8 au 11 novembre à Paris, porte de Versailles, avec 550 exposants. Mode, beauté, maison, innovation, gastronomie. Achetez le meilleur du Made in France. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le salon du Made in France du vendredi 8 au lundi 11 novembre à Paris, porte de Versailles. Invitation sur mifexpo.fr.
Cuir Center. Cuir au tissu, couleur douce ou vitaminée, modulable selon vos envies. Un canapé Cuir Center, c'est bien plus qu'un canapé, c'est votre canapé. Pendant les 15 jours irrésistibles Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu. Les 15 jours irrésistibles Cuir Center, c'est jusqu'au 18 novembre. Magasin ouvert ce dimanche sur cuircenter.com. Galerie Lafayette.
Restez stoïque devant cette tunique, gardez la raison devant ce blouson, arrêtez de résister. Chic, c'est les 3J. Du 16 octobre au 3 novembre, jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Et ce week-end, avec votre carte de fidélité, ce sont moins 15% supplémentaires. Modalité sur le site et en magasin. Galerie Lafayette.
Peugeot présente, plein phare sur la Peugeot 108.
Ma nouvelle invitée est celle qui a créé la surprise dans la superproduction Génération 2020. Je veux parler de la délicieuse Peugeot 108. Très convaincante lors de ses marches arrière avec sa caméra de recul, sulfureuse parfois avec son toit découvrable, c'est surtout sa nouvelle motorisation dernière génération et déjà disponible qui nous a époustouflés. Une prestation d'autant plus saluée qu'elle a su rester hyper accessible avec 2 500 € de prime génération 2020.
Détails sur Peugeot.fr.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Oui, on parlait il y a un instant de pratiques religieuses avec le préfet Didier Lesky et le comédien auteur Ismaël Saïdi. Il y a 100 façons de croire, 1000 façons de vivre sa foi. Mais il y en a une qui ne cesse de gagner du terrain, c'est la lecture littérale des textes sacrés. C'est considéré que tout ce qui a été écrit il y a 1500 ou 2000 ans a une portée universelle et temporelle. On le voit chez les musulmans salafistes, mais aussi chez les chrétiens évangéliques. Comment vous l'expliquez, Ismaël Saïdi?
Moi, je l'explique. On le voit chez... Pas que, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais on le voit pas que chez les musulmans salafistes.
Oui.
On le voit, en fait, chez tout croyant qui considère que son livre... Je vais mettre des guillemets à sacré, que son livre sacré est un fax envoyé par Dieu comme ça, que ça n'a pas été touché. Et il faut remettre de l'histoire là-dedans, il faut recontextualiser. Le Coran reste un livre qui raconte une histoire précise à un moment précis. Et il est là le danger, parce que pour certains, on va aller considérer certains versets comme des versets immuables, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas bouger parce que Dieu aurait parlé comme ça. Mais si je fais ça de tout cet ouvrage, il y a quand même des versets qui sont sérieusement... compliqué et dur, des versets qu'on pourrait considérer comme haineux à l'égard de tribus juives arabes à Médine à l'époque, par exemple, des versets qui disent qu'on peut frapper sa femme. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut retrouver. Soit on accepte dès le départ que c'est une histoire racontée, qu'on peut trouver Dieu derrière en essence, mais que c'est une histoire racontée qu'il faut tout recontextualiser. Mais si on garde tout comme étant une parole sacrée qu'on ne peut pas toucher, alors là, ça devient compliqué.
Didier Lesky.
Peut-être parce que il y a une perte de la confiance dans le présent, avec cette idée qu'on peut maintenant changer le monde et améliorer notre condition humaine. Et du coup, on se réfugie dans cette idée que, au fond, notre seul salut, c'est le paradis. Et à partir de là, on a une lecture de plus en plus dure des textes. Mais en même temps, il faut quand même souligner qu'il y a littéralisme et littéralisme. Il y a des littéralismes aussi qui sont manifestement beaucoup plus meurtriers que d'autres. Et donc, on ne peut pas peut-être les mettre sur le même plan.
Et oui, mais c'est quand même un danger. Et c'est sur cette base-là, pardon, que les idéologies littéralistes, donc celle de l'islam,
il faut faire attention.
Salafisme et oui, frérisme.
Il faut faire attention sur la question du voile, par exemple, qui est discutée par les savants musulmans depuis de nombreuses années. Et là où je suis un peu triste, c'est qu'on voit ce durcissement que vous signalez. Je rappelle que dans les années 2000, quand Jean-Pierre Chevènement lance la consultation des musulmans de France pour asseoir l'islam à la table de la République, le voile n'est pas avancé par les responsables, qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui, comme une prescription religieuse. On dit c'est une pratique, hein, elle n'est pas une prescription coranique au sens où elle n'appartient pas aux 5 piliers de l'islam. Et là, on voit aujourd'hui une déclaration qui tend à ramener le port du voile comme si c'était un pilier nécessaire de l'islam. Et c'est au sein des pratiquants musulmans qu'heureusement il y a le débat là. Et au-delà de la pétition des 50 qui est un peu en l'air, je vois un ancien président du Conseil français du culte musulman, M. Moussaoui, qui est respecté, qui est sans doute un des responsables qui fédère un nombre important de mosquées, qui dit « Attention, vous faites une erreur, ce n'est pas une prescription, c'est une pratique, elle est tout à fait discutable. » Mais dire par exemple que celle qui ne pratique pas cela pourrait être de moins bonne musulmane, c'est un danger qui va nous amener à des affrontements qui ne sont pas raisonnables. Et je rappelle par exemple que la position d'El-Azhar à la fin des années 90 et 2000, c'est de dire que le voile...
La grande mosquée du Caire qui fait normalement autorité, enfin si, pour autant qu'il puisse y avoir une autorité.
Une des autorités du monde sunnite disait ce n'est pas une prescription obligatoire, c'est une pratique. Ce qu'on demande simplement aux femmes musulmanes, c'est de la pudeur, mais la question du port du voile n'est pas un critère nécessaire pour être une bonne musulmane.
Justement, le fait que c'est ceci hyper important, parce que je pense que pendant des années, en France ou même ailleurs, en Belgique, dans mon pays, dans le pays d'où je viens, on a cherché des autorités chez les musulmans avec qui parler, un représentant. Sauf que l'islam n'a pas de clergé, et donc c'est une religion qui fonctionne un peu en freestyle, je vais dire. Et c'est comme une énergie nucléaire mal contrôlée. Et je pense que la seule protection pour les musulmans, dont je fais partie moi, encore une fois, je ne parle pas en leur nom, je parle que pour moi, c'est la laïcité. C'est ça en fait, c'est, comme il n'y a pas de clergé, la laïcité, toutes ces règles mises en place pour tout le monde, pas que pour les musulmans, nous protègent. Un dernier exemple que je donne vite, je rencontre beaucoup de jeunes, donc je travaille beaucoup avec ces jeunes-là. Beaucoup de filles, alors il y en a plein qui ont choisi de mettre le voile pour des raisons esthétiques ou à la rigueur je m'en fous, mais certaines à qui on a imposé ce voile, ce qui les a sauvées, c'est qu'à l'école, elles ne pouvaient pas le mettre. Donc le fait qu'elles devaient le retirer pour rentrer à l'école, la laïcité, la République les a protégées, sauvées. Et en sortant de l'école, elles ont fini par avoir les instruments, la matière pour pouvoir dire « je ne veux plus le mettre, ça m'est imposé, donc je refuse de le mettre ». Et celles qui l'ont mis pour des raisons qui leur sont propres et par choix, on continue à le mettre par la suite parce que voilà. Donc je pense vraiment que pour une religion comme l'islam, pour une problématique comme celle qu'il y a aujourd'hui en France, la France est un vrai laboratoire. C'est un Belge qui vous le dit. C'est que c'est vraiment la laïcité qui va protéger tous ces gens-là, en fait.
Didier Lesky, vous ne cessez de le rappeler, il manque en France, à votre avis, des intellectuels musulmans, des consciences qui puissent faire contrepoids au salafisme.
J'avais même une formule peut-être provocatrice, je disais qu'il manque des Bernanos musulmans, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne peut pas douter de la foi, mais qui, comme Bernanos, au moment de la guerre d'Espagne, dit « on ne peut pas assassiner les républicains au nom de Dieu et ce n'est pas ça ma manière de vivre la fraternité des hommes voilà. ».
Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas médiatisés. Il y en a beaucoup.
Je pense que ce que vous faites, par exemple, monsieur, ça fait partie de ce qui est absolument nécessaire et qui n'est pas suffisamment nombreux. Et merci à Patrick Cohen de donner cette parole-là, parce que très souvent, ceux qui parlent au nom des musulmans, ils ont, je dirais, deux défauts. La première, c'est que très souvent, les fidèles des mosquées ont le sentiment qu'ils ne sont pas croyants comme eux. Et donc, ça les dévalorise. Et la deuxième, c'est que parfois, ils épousent la mauvaise pente. Voilà. Et alors que tout l'enjeu, c'est de résister à partir de sa foi aux mauvaises pentes qui fait qu'on décide d'assassiner les autres.
Merci beaucoup, Didier Lesky. Je rappelle votre livre « Misère » au pluriel de l'islam de France aux éditions du Cerf. Merci Ismaël Saïdi. Votre pièce « Djihad » se joue encore à Paris les mardis et mercredis au théâtre Le Pic. C'est juste derrière le Moulin de la Galette.
Tout à fait, merci.
Merci
beaucoup.
À vous.
Merci.
Dans un instant, je vous fais rencontrer un grand homme de science qui a gravi tous les échelons de son Algérie natale au prix Nobel de physique et qui aimerait croire qu'un tel parcours soit encore possible. Claude Cohen-Tanoudji, qui défend la recherche fondamentale et l'énergie nucléaire, sera avec nous dans un instant.
Europe 1, 9h-10h. C'est arrivé cette semaine.